premier temps d'une nouvelle série de la Fabrique de l'Histoire sur le bac 2019, tandis que les chemins de la philosophie, la méthode scientifique, Entendez-vous l'écho et la compagnie des auteurs préparent eux aussi de leur côté, depuis la semaine dernière, le bac dans leur propre discipline, philosophie, sciences, économie et littérature. Les années précédentes, la France, la fabrique de l'histoire, la France, je parle comme quelqu'un qui dirige la France, ça doit être à cause des élections. La fabrique de l'histoire vous a proposé des corrigés du bac précédé d'un petit documentaire de 20 minutes sur par des proches portraits de personnages historiques, des lieux d'histoire, des discours enregistrés. Et ces émissions sont toujours disponibles et écoutables sur le site de France Culture et sur notre page, en passant par notre page de la fabrique de l'histoire sur le site. Vous pouvez donc les réécouter et préparer votre bac avec. Cette année, nous vous proposons en 3 émissions. Jeudi, il n'y aura pas de fabrique pour raison de diffusion de la messe de l'Ascension. 3 thèmes, socialisme et syndicalisme en Allemagne, ça sera demain. Les mémoires de la guerre d'Algérie, ça sera mercredi. Et aujourd'hui, donc, les États-Unis et le monde. Audrey Levray, professeur d'histoire-géographie au lycée Olympe de Gouges à Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis, vous proposera en deuxième partie de cette émission un plan de composition. Mais auparavant, Catherine de Copé et Thomas Duterre ont préparé donc un documentaire et vous proposent l'histoire d'un document, une photographie très célèbre de la photographie états-unienne du XXe siècle, Migrant Mothers de Dorothy Lange, documentaire sur cet objet culturel qui est devenu depuis universellement célèbre. C'est jusqu'à 9h30 dans la fabrique.
Migrant Mother, Dorothy Lange, février 1936, Nipomo, Californie.
C'est une photographie noir et blanc, comme toutes les photographies que Dorothée Allange a pu prendre durant sa vie. C'est un document, hein, parce que Dorothée Allange était invitée par l'État fédéral sous forme de contrat pour documenter en fait la dépression et les effets de la politique du New Deal de Roosevelt sur la dépression, c'est-à-dire comment l'État fédéral a essayé de sortir l'Amérique de la dépression au début des années 30.
Le New Deal, ou Nouvelle Donne, c'est le nom de la politique du président américain Franklin Roosevelt à partir de 1933. Ce programme ambitieux de réformes économiques est une réponse à la crise sans précédent que traverse le pays, la Grande Dépression. Trouvant ses racines dans les déséquilibres de l'économie américaine et le phénomène de bulles spéculatives, cette crise économique a pour point de départ le krach boursier du 24 octobre 1929. Une déflagration qui aura des répercussions sur toute l'économie mondiale.
Ceci est plus qu'une campagne électorale. Ceci est une guerre froide. Aidez-moi non seulement à gagner des suffrages, mais à remporter la victoire dans cette croisade pour restaurer l'Amérique aux yeux de son propre peuple.
Quand Franklin Roosevelt est élu en 1933, près d'un quart de la population active est au chômage et 2 millions d'Américains sont sans abri. Et dans les plaines du Sud, depuis 2 ans, les agriculteurs affrontent des épisodes de sécheresse et des tempêtes de poussières inédites, le Dust Bowl.
Listen, that wind's fixing to do something. Sure it is. Always is this time of year.
La photographie est un portrait à la verticale avec une femme au centre et 2 enfants blottis sur ses épaules. Et ces enfants détournent leur visage de la photographe Dorothée Allange.
Pia Viewing.
Elle a l'air assez affectée par sa situation de pauvreté. Les enfants portent des vêtements un peu déchiré, avec des trous. Et il y a aussi un bébé dans les bras de la mère, avec le visage un petit peu sali. Il est vrai que cette femme, elle est très belle en même temps. Hein. Elle a une expression assez profonde, mais un visage marqué par les difficultés. On sait qu'elle avait 32 ans, mais elle a l'air d'en avoir plus de 40. Et cette femme donc regarde au-delà de l'appareil photo en tenant la tête avec l'une de ses mains, l'air inquiète et je dirais inspirée par l'horizon, un petit peu regardant au-delà du moment présent.
Ain't you gonna look back, Ma? Give the old place a last look. We're going to California, ain't we? All right then, let's go to California.
That don't sound like you, Ma. You never was like that before.
I never had my house pushed over before. Never had my family stuck out in the road. Never had to lose everything I had in life.
Nipomo, Californie, 1936. Famille de fermiers migrants. Sept enfants affamés. Mère âgée de 32 ans, père originaire de Californie. Indigents dans un camp de ramasseurs de pois, affamés à cause de la mauvaise récolte. Ces personnes viennent de vendre leurs tentes pour s'acheter à manger. Plus de 2500 personnes dans ce camp vivent dans le dénuement.
Dorothée Allange raconte qu'elle était sur la route, qu'il pleuvait. Elle était en train de rentrer de ses prises de vue pour aller chez elle. Elle avait 7 heures de route devant elle et puis elle voit la signaler sur le bord de la route, donc en Californie, qu'il y avait un camp de cueilleurs de petits pois. Donc elle réfléchit tout en conduisant, elle fait demi-tour et elle va s'orienter vers ce camp de migrants. Donc elle tombe sur Florence Thompson avec ses enfants qui sont blottis dans une espèce de tente ouverte, donc qui s'abrite en dessous de cette tente, et elle trouve le sujet assez poignant pour s'arrêter donc devant, et elle va faire cette prise de vue où elle va photographier ces sujets de plus loin au plus près. Et Florence Owen Thompson accompagne donc son mari à la recherche du travail. Et au moment de la prise de vue, son premier mari est déjà mort de tuberculose. Donc c'est le père de ses 6 enfants. Un enfant est déjà décédé. Et puis elle s'est remariée avec un autre homme avec qui elle a un enfant qu'elle tient donc dans ses bras au moment de la prise de vue. Donc cette séquence montre aussi la tétée hein, de ce bébé. Et en fait, c'est une histoire un peu tumultueuse parce que Florence Thompson n'a pas du tout apprécié que cette photographie devienne aussi célèbre parce qu'elle ne voulait pas incarner la misère des années 30 aux États-Unis.
Vous dites que Florence Owen Thompson n'a pas du tout apprécié. Donc comment la rencontre s'est faite une fois que la photo est devenue célèbre?
Alors, la rencontre s'est jamais faite en fait. C'est... Au début des années 70, une journaliste identifie Florence Thompson et va enfin faire le lien entre la photographie des années 30 et cette dame donc âgée en 1970.
Back in 1927, I had a little farm and I called it Headland. Prices up and the rain come down and I hauled my crops all into town. I got the money, bought clothes and groceries, fed the kids, took it easy. The rain it quit and the wind got high and the black old dust storms filled the sky. And I swapped my farm for a Ford machine and I filled it full of this gas I lean and started.
Cette image est devenue une icône en fait de l'histoire de la photographie moderne et aussi de l'histoire des États-Unis. Donc en fait Florence Owen Thompson est originaire de l'Oklahoma et entre 1910 et 1950 des États comme l'Arkansas, Oklahoma, Colorado, le Texas par exemple ont perdu à peu près un quart de leur population parce que les personnes ont dû quitter leurs emplois ou leurs fermes à cause de la Grande Dépression. Et donc Florence Owen Thompson, en fait, elle représente cette migration très très importante. Ça représente des milliers de personnes qui, pour la plupart, sont arrivées en Californie dans les années 30. Alors les motifs derrière étaient des motifs à la fois personnels, parce que ces personnes étaient amenées à trouver un emploi mieux payé en Californie, dans les fermes industrielles de la Californie. Mais en amont de cette situation, il faut quand même savoir que c'est l'un des premiers lois en fait qui est passé au moment de l'élection de Roosevelt en 1933, qui est the Agricultural Adjustment Act. Les États-Unis à cette époque produisaient trop et consommaient pas assez. De ce fait, les prix des denrées étaient très bas, et pour encourager et pour essayer d'augmenter le prix des denrées, on encourageait les fermiers à moins produire. Et donc forcément, ces fermiers étaient à la recherche de meilleurs emplois. Et à ce moment-là, on développe en Californie, dans les riches vallées fertiles de la Californie, des premières fermes agricoles industrielles.
I got that dust pneumonia in my lung. I got the dust pneumonia in my lung.
Sur les terres rouges et sur une partie des terres grises de l'Oklahoma, les dernières pluies tombèrent doucement et n'entamèrent point la terre crevassée. À la fin de mai, le ciel pâlit. Et les nuages, dont les flocons avaient flotté très haut pendant si longtemps au printemps, se dissipèrent. Jour après jour, le soleil embrasa le maïs naissant jusqu'à ce qu'un liseré brun s'allongeât sur chaque baïonnette verte. La surface de la terre durcit, se recouvrit d'une croûte mince et dure. Et de même que le ciel avait pâli, de même, la terre prit une teinte rose dans la région rouge et blanche dans la grise. Puis ce fut juin, et le soleil brilla plus férocement. Sur les feuilles de maïs, le liseré brun s'élargit et gagna les nervures centrales. Les herbes folles se déchiquetèrent et se recroquevillèrent vers leurs racines. L'air était léger et le ciel plus pâle. Et chaque jour, la terre pâlissait aussi. John Steinbeck, Les raisins de la colère.
Dorothée Allange, au départ, elle était photographe de studio, donc elle faisait des portraits. Elle était autodidacte, hein. Elle a appris la photographie auprès d'autres portraitistes. Et en 1932-33, quand elle réinvestit son studio photographique après avoir été sur de longs voyages dans d'autres états de l'Amérique avec son premier mari, qui était peintre, elle regarde par la fenêtre de son studio et elle voit une population pauvre de plus en plus important dans les rues de San Francisco. Donc à ce moment-là, elle remarque que son métier de photographe en studio, répondant donc à des commandes précises de faire des portraits de certaines personnes, ne correspond pas tout à fait à un engagement social qu'elle aimerait avoir. Et donc elle va dans la rue, elle commence à photographier la population urbaine de San Francisco et notamment les personnes qui font la queue pour la soupe populaire. Et donc, suite à ces premières photographies en fait, de la dépression, Dorothée Allange va être identifiée parmi certains photographes qui ont cette même sensibilité. Et donc, du coup, Allange sera engagée par l'État fédéral et donc va couvrir cette migration, notamment en Californie, mais elle va finalement travailler dans 22 États de l'Amérique pour documenter donc, photographiquement cette histoire et cette période des États-Unis, notamment par rapport aux questions agricoles, mais pas seulement.
I'm going down the road feeling bad. I'm going down the road feeling bad. I'm going down the road feeling bad. Oh, Lordy, I ain't gonna be treated this away. They fed me on cornbread and beans. They fed me on cornbread and beans.
Gosh, Connie sure sings pretty.
And beans. Oh, Lordy, I ain't gonna be treated this away.
Florence Thompson. She lives right over there in that trailer. No, you wouldn't recognize the
interview
name.
De Florence Owen Thompson par Bob Dodson à la NBC en 1979.
I chop cotton and fireball down there for 40 cents an acre. I pick cotton and
dans ce coin-là, je coupais du coton pour 40 cents le demi-hectare.
For 50 cents, 100, 40 cents, 100.
Je ramassais le coton pour 50 cents ou 40 cents les 100 pieds.
I'd hit that cotton field before daylight and stay there. It got so dark I couldn't see.
J'arrivais dans ce champ de coton avant le lever du jour et y restais jusqu'à ce qu'il fasse sombre à ne plus rien voir.
And I didn't even weigh 100 pounds.
Et je ne pesais même pas 50 kilos.
I worked in hospitals.
Je travaillais dans des hôpitaux,
I tend bar.
Derrière un bar.
I cooked.
J'ai fait la cuisine.
I worked in the field.
J'ai travaillé dans les champs.
I done a little bit of everything to make a living for my kids.
J'ai fait un peu de tout pour joindre les deux bouts et nourrir mes enfants.
Did you ever lose hope?
Vous est-il arrivé de perdre espoir?
Non.
Non.
But I never left hope. I'd never made it.
Si j'avais perdu espoir, je ne m'en serais pas sorti.
Cette image est devenue extrêmement fameuse parce que d'abord elle a été dès 1936 reproduite dans la presse et notamment dans une revue prestigieuse de photographie américaine, mais aussi parce que cette image devient un symbole de reconnaissance des Américains entre eux cette souffrance. Donc, ce n'est pas une femme modèle, mais c'est une femme dans laquelle on peut se reconnaître. Finalement, cette photographie, elle montre deux choses. En fait, on a souvent décrit, notamment le travail de Dorothée Allange, comme étant une photographie de propagande. C'est-à-dire, ces images viendraient donc montrer le bon côté du New Deal et de la politique de Roosevelt. Mais la photographie de la Migrant Mother montre plutôt une femme dans une situation difficile, souffrante donc de sa situation de pauvreté extrême. Et effectivement, Lange était plutôt motivée par le fait qu'elle pensait qu'on ne montrait pas assez la pauvreté et qu'il fallait le faire pour changer le quotidien de ces personnes. Et donc elle était emplie d'une sorte de quête. Elle utilisait la photographie pour ces objectifs-là. Voilà.
Woody Guthrie est un chanteur de folk américain, connu pour son engagement en faveur des plus pauvres. Né en 1912, son expérience de la Grande Dépression, faite d'itinérance et de petits boulots, l'amène à faire des chansons protestataires, dont les Dust Bowl Ballads, enregistrées en 1960. Dust Bowl Refugee est l'une d'entre elles.
I'm a dust bowl refugee, just a dust bowl refugee. From that dust bowl to the peach bowl, Now that peach fuzz is killing me. Cross the mountains to the sea. I'm a dust bowl refugee.
Je suis un réfugié du bol de poussière.
Just a dust bowl refugee.
Un simple réfugié du bol de poussière.
From that dust bowl to the peach bowl. Now that
de ce bol de poussière au bol de pêche, à ce duvet sur les pêches me tue. À travers les montagnes jusqu'à la mer, nous allons, ma femme, les enfants et moi. C'est une vieille route brûlante et poussiéreuse pour le réfugié du bol de poussière.
Voilà donc pour ce documentaire en ouverture de cette émission consacrée au baccalauréat, signé donc Catherine Decopé et Thomas Duterre, avec des textes qui sont lus par Thierry Beauchamp, autour de la photographie Migrant Mother de Dorothy Lange, donc devenue symbole de la Grande Dépression aux États-Unis, avec une interview de Pia Ewing, qui est chercheuse en histoire de l'art et commissaire de l'exposition sur Dorothy Lange qui se tenait il y a quelques semaines de cela au musée du Jeu de Paume à Paris. Tout cela pour ouvrir le thème, le premier thème de cette série d'émissions consacrée au bac autour des États-Unis et le monde. Bonjour à vous, Audrey Levray.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur d'histoire-géographie au lycée Olam de Gouges à Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis. Vous allez proposer un plan de composition donc autour de ce thème, les États-Unis et le monde. Mais avant même de commencer, pour faire le lien avec le documentaire qu'on vient d'entendre, il faut bien dire que la question des images donc et de la suprématie des images américaines et des États-Unis dans le XXe siècle est un thème justement qu'on peut développer dans une copie comme celle-ci.
Tout à fait, parce que les images véhicules sont des véhicules de la puissance des États-Unis dans le monde, ou justement une remise en question de cette puissance des États-Unis. On peut notamment penser à la une d'un hors-série du Courrier International en 2016, où on voit le détournement de l'image d'un héros traditionnel, Spider-Man, et le Courrier International titre « Que reste-t-il de la puissance américaine ?»
Parce que ce héros en question est abattu d'une certaine façon, il a été un tout petit peu choqué par l'ensemble du XXe et du XXIe siècle.
Exactement.
Et donc ces images font partie de ce qu'on appelle le soft power. Vous allez en traiter dans votre corrigé, votre plan aujourd'hui de composition. Je vous laisse vous lancer. On commence par quoi? Puisque le thème tout de même, c'est les États-Unis et le monde depuis le président Wilson
les
en 1919.
Les 14 points du président Wilson. Alors on peut commencer par une citation du président américain Woodrow Wilson, issue de son discours prononcé devant le Congrès en mars 1919. Wilson dit « Cette grande nation s'est formée pour le plus grand bénéfice de l'humanité. Elle a été fondée pour représenter l'idéal le plus élevé et pour accomplir les plus nobles aspirations des hommes qui ont souhaité être libres. Le monde croit en nous et compte sur nous. Il serait rejeté dans les ténèbres du désespoir si nous manquions à cette mission. »
Donc la mission des États-Unis pour le monde.
Exactement, la mission des États-Unis pour le monde, et cette citation du président Wilson montre bien justement la place prépondérante qu'il envisage pour les États-Unis dans le monde en 1918.
Donc on peut commencer sa copie par une citation comme celle-ci ou par une paraphrase de cette citation pour pouvoir bien montrer que on connaît le terme de départ de ce sujet, donc 1919 et les 14 points du président Wilson. Et d'ailleurs les auditeurs qui nous écoutent, qui préparent le bac, peuvent toujours écouter le documentaire justement sur la venue de Wilson à Paris qui a été réalisé il y a quelques temps par la Fabrique de l'Histoire, vous le trouverez sur le site. Et ensuite, on développe.
Exactement. Alors, dans un premier temps, on peut rappeler que l'enjeu de la composition pour les candidats, c'est de montrer qu'ils savent analyser un sujet et mobiliser de manière organisée à argumenter toutes les connaissances qu'ils ont acquises au cours de l'année. Le sujet qui nous intéresse donc aujourd'hui est les États-Unis et le monde depuis les 14 points du président Wilson. Il s'inscrit dans un thème, puissance et tension dans le monde depuis 1918, un thème qui invite donc les élèves et leurs professeurs à étudier les origines, l'évolution, mais aussi les étapes et les manifestations de la puissance, ici des États-Unis, qui sert d'étalon d'une certaine manière pour la définition de ce qu'est une puissance au XXe siècle. Alors, il faut toujours commencer par analyser le sujet et cette étape est indispensable au brouillon pour les élèves. Il ne faut pas la négliger, elle permet de montrer qu'on a compris le sujet et ses enjeux. On peut commencer par poser le cadre. Les États-Unis en 1918 sont en état encore jeune, doté d'un territoire immense et assez peuplé, et le monde, lui, peut s'envisager comme tous les États avec lesquels les États-Unis entretiennent des relations. Alors, au début, c'est essentiellement l'Europe, dans le cadre à la sortie de la Première Guerre mondiale et dans l'entre-deux-guerres, l'Europe et le continent américain. Puis, après la Seconde Guerre mondiale, c'est l'ensemble des États du monde, un monde qui est désormais bipolaire dans le cadre de la guerre froide, jusque dans les années 90, à partir desquelles le monde est régi par un nouvel équilibre, de nouvelles tensions et l'apparition de nouvelles puissances. Le sujet nous invite donc à étudier la relation entre les États-Unis et le monde, la place des États-Unis dans le monde.
C'est le « et » qui compte là.
Exactement. En quoi les transformations du monde éventuellement ont une influence sur les États-Unis, mais pas les États-Unis pour eux-mêmes. Le sujet tel qu'il est formulé fait référence à un discours célèbre du président américain Woodrow Wilson, prononcé devant le Congrès le 8 janvier 1918, un discours dans lequel il énumère un ensemble de points qui recouvrent essentiellement deux objectifs. Le premier, c'est l'établissement d'une paix durable dans le monde, une paix qui reposerait sur des traités multilatéraux et le désarmement. Et le second objectif, c'est celui de faire la promotion du libre-échange et du libéralisme économique qui sont au fondement de la puissance américaine. Ce texte, il est fondateur parce qu'il pose en fait des bases nouvelles pour les relations internationales au XXe siècle et il met en jeu deux visions états-uniennes des relations internationales et de la politique extérieure. Deux visions qui s'opposent et qui alternent durant la période. Cette première vision, c'est l'isolationnisme, c'est-à-dire le refus traditionnel des États-Unis d'intervenir dans des affaires qui ne les concernent pas ou qui ne concernent pas le continent américain. Et à l'opposé, la deuxième vision, c'est celle de l'interventionnisme, qu'on peut définir comme l'attitude d'un État qui n'hésite pas à intervenir dans les affaires du monde. Et c'est cette nouvelle forme de diplomatie que Wilson veut promouvoir.
Alors, c'est très, très intéressant parce que le petit documentaire qu'on a écouté autour de Mulgrew Mothers et de Dorothy Lange, la photographie donc de cette femme pendant la Grande Dépression, eh bien, montre aussi qu'un personnage comme Roosevelt, dont on a parlé dans ce documentaire, il incarne les deux parties ou les deux façons de voir la relation au monde, puisque dans un premier temps, il est plutôt isolationniste, et dans un deuxième temps, il va intervenir au cours de la Seconde Guerre mondiale, par exemple.
Exactement. Roosevelt, c'est un Wilsonien convaincu. Il est pour l'interventionnisme, mais dans un premier temps, étant donné la situation socio-économique, il maintient une politique isolationniste, et on le verra, la Seconde Guerre mondiale constitue un vrai point de rupture pour les États-Unis.
Je vous laisse continuer. Donc, ce plan autour de ce thème, les États-Unis et le monde, Audrey Levray.
Alors, au moment où Wilson prononce son discours, c'est presque la fin de la Première Guerre mondiale, qui marque le premier engagement des États-Unis dans un conflit qui n'est pas le leur. L'Europe est plutôt affaiblie, mais l'économie américaine, elle, se porte bien. Et c'est sur ce socle que les États-Unis vont peu à peu construire leur puissance, qui est la notion au cœur du sujet qu'il faudrait définir dans l'introduction. La puissance, c'est la capacité d'un acteur à imposer sa volonté aux autres. Elle s'incarne par le hard power, la force brute, mais aussi la persuasion, qu'on appelle soft power. Pour les candidats, il sera donc intéressant, en guise de problématique, de se demander en quoi la place et le rôle que les États-Unis d'Amérique occupent dans le monde depuis 1918 permettent d'élaborer la notion de puissance au XXe siècle.
Donc ça sert de modèle d'une certaine façon. Est-ce que l'exemple américain peut servir de modèle pour comprendre ce qu'est une puissance dans le monde au XXe siècle?
Tout à fait. Et on peut voir donc la construction de ce modèle en trois étapes chronologiques. Tout d'abord, une première étape de 1918 à 1941, durant laquelle les États-Unis construisent leur puissance économique, mais refusent d'intervenir dans le monde. Après la Seconde Guerre mondiale, qui est le point de rupture à partir duquel les États-Unis assument leur puissance, ils interviennent dans le cadre de la guerre froide. Pardon.
Je vous en prie, prenez un peu d'eau, ça peut aider.
Et enfin,
ça, c'est la deuxième partie, donc, à partir de 1941, donc l'intervention américaine dans la Seconde Guerre mondiale.
Et enfin, à partir des années 1990 et de la chute de leur rival soviétique, On assiste à l'apogée de la puissance des États-Unis dans le monde.
Donc on décrit cette question par trois parties chronologiques qui sont différentes en longueur, mais qui néanmoins ont une importance, puisqu'on fait en gros 1919-1941, 1941-1990, et ensuite 1990 jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que ça signifie qu'il faut aussi, dans la conclusion ou dans la fin de cette partie, troisième partie, est-ce qu'il faut aussi, Audrey Levray, se poser la question de venir jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire jusqu'à la présidence Trump? Est-ce qu'on imagine que cette troisième partie vient jusqu'à l'actualité, ou est-ce qu'on se garde la possibilité de ne pas le faire parce que ça serait prendre parti sur l'actualité, en l'occurrence Audrey Levray?
Non, il faut aller jusqu'à nos jours en gardant toujours à l'esprit qu'il faut avoir un discours objectif. Basé sur des faits que l'on analyse de manière historique.
Bien, alors je vous laisse continuer donc ce plan donc autour des États-Unis et le monde, Audrey Levray.
On va donc développer ces trois grands axes sans développer tous les exemples, en commençant tout d'abord par la période 1918-1941. Les États-Unis d'Amérique durant cette période construisent leur puissance essentiellement sur le plan économique, mais refusent de s'engager. Il faudrait, dans une première sous-partie, commencer par faire un point en fait sur l'année 1918, qui marque le début donc de la période, et qui est en quelque sorte la date de naissance de la puissance états-unienne au monde. Une puissance sur les plans économiques et financiers, avec l'augmentation de la production industrielle, mais dans un premier temps dirigée vers le marché intérieur. Les États-Unis ne sont pas encore du tout le pôle incontournable des circuits commerciaux à échelle mondiale. Une puissance sur le plan militaire aussi. La Première Guerre mondiale leur a permis de faire la démonstration de des capacités de leur armée. Après donc leur engagement en réaction à une menace qui pesait sur leurs intérêts commerciaux, mais surtout sur le plan politique. Et il faut parler de la figure du président américain Woodrow Wilson, qui est réélu en 1916 sur un programme non interventionniste, mais qui est celui qui parvient à convaincre les Américains de s'engager au nom de la paix, en réactivant le concept de manifeste destinée.
Oui, alors il faut peut-être préciser ce que c'est la destinée manifeste aussi, quand on est un élève qui passe le bac.
Exactement. De manière assez simple, on peut dire que c'est une doctrine formulée au siècle précédent, selon laquelle les États-Unis ont la mission historique de répandre leur civilisation sur le continent américain et de servir de modèle au reste du monde.
Donc ça, il faut le préciser. Si on a une idée à retenir pour cette première sous-partie, c'est justement de préciser qu'il y a bien cette question de destinée manifeste. Je vais vous laisser reprendre un peu votre souffle et on va écouter un petit Bob Dylan. Ça va vous permettre de vous reprendre un peu votre voix.
Come gather round people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. And if your breath to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. Come writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming, for the loser now will...
Les temps changent, donc par Bob Dylan en l'occurrence, dans ce corrigé, donc ce plan pour cette composition autour des États-Unis et le monde, donc au bac 2019, avec vous Audrey Levray. On s'est arrêté à la fin de la première sous-partie de la première partie.
Donc exactement.
On sait bien que la première partie, c'est donc une partie qui court historiquement entre 1918-19 et la Première Guerre mondiale et l'engagement des États-Unis en 1941. Vous nous avez fait le portrait de Woodrow Wilson, ce président qui est à l'origine même de ce thème qu'on développe au baccalauréat sur cette thématique-là.
À l'origine également de la création de la Société des Nations, bien sûr. Sur la base de son point 14, le point 14 donc de ses 14 points.
Alors, deuxième sous-partie autour de cette période entre 1918-19, 1941.
Il faudrait montrer que l'émergence de la puissance des États-Unis et la volonté wilsonienne de s'engager dans le monde, en fait, est totalement abandonné dans les années 1920, année durant lesquelles les États-Unis maintiennent un isolationnisme très fort, ils ne s'engagent pas. Et en cela, l'élection du président Harding est le symbole de ce retour à l'isolationnisme. Son programme intitulé « America First » fait directement référence à la doctrine Monroe, cette doctrine selon laquelle les puissances européennes ne doivent plus se mêler des affaires du continent américain et inversement.
Il faut donc aussi montrer que le projet de Woodrow Wilson est un échec au point de vue intérieur, en tous les cas, qu'en tout cas, il ne parvient pas à convaincre ses compatriotes de cet engagement qu'il voulait dans le concert international des nations.
Tout à fait, et cela est manifesté par le refus des États-Unis d'adhérer à la SDN.
Voilà, donc ça c'est la deuxième sous-partie. La troisième sous-partie de cette première partie,
Je ne la développerai pas. En fait, elle concerne les années 1930, dont on a parlé dans la première partie de l'émission. Il faudrait juste bien rappeler que, en se concentrant sur leur politique intérieure, les États-Unis se désintéressent du reste du monde. Ils tournent le dos à la scène internationale, par exemple avec le vote des Neutrality Acts entre 1935 et 1939.
Tout cela, ça a été donc vu par les élèves pendant leur cours autour des États-Unis et le monde. On est à la fin de la première partie donc de cette composition autour des États-Unis et du monde, et on est en 1941, c'est bien cela?
Exactement, et 1941, c'est un véritable point de rupture dans la relation des États-Unis au monde, puisque leur engagement dans la Seconde Guerre mondiale va marquer le début de l'interventionnisme états-unien dans le monde et va contribuer à faire des États-Unis une superpuissance assumée et globale qui occupe une place prépondérante dans le monde. Il faudrait consacrer une première partie à la Seconde Guerre mondiale, justement à ce moment de l'engagement. Avant l'engagement, Roosevelt, qui est héritier de Wilson, hein, interventionniste, avait déjà engagé quelques actions, mais des actions timides, entre guillemets, d'intervention. Et c'est véritablement l'attaque de la base américaine de Pearl Harbor le 7 décembre 1941 qui va motiver l'intervention pleine des États-Unis dans cette guerre. Et ce sera l'occasion pour eux de faire preuve de leur puissance économique et financière. Tout d'abord, ils lancent leur industrie au service de l'effort de guerre et deviennent l'arsenal des démocraties. Leur intervention est aussi une des clés de la victoire des Alliés. Leur supériorité militaire s'incarne aussi dans l'utilisation des bombes atomiques. Mais dès avant la fin de cette guerre, les États-Unis prennent aussi une place prépondérante dans la diplomatie internationale, avec la figure de Roosevelt qui rencontre Staline, Churchill, mais aussi avec son successeur, Truman, qui signe la charte de San Francisco en juin 1945, créant ainsi l'ONU.
Donc ça, c'est la première sous-partie de cette deuxième partie?
Oui.
Et ensuite?
Ensuite, il faudrait montrer, donc, dans une deuxième sous-partie, que les États-Unis, dès les lendemains de la Seconde Guerre mondiale, qu'ils ont propulsé sur le devant de la scène internationale, tentent de s'imposer dans le monde sur tous les plans. Dans le cadre de la guerre froide, on peut à nouveau rappeler l'idée de destinée manifeste. Et en fait, c'est en réaction à la menace communiste sur cette destinée que les États-Unis mènent une politique interventionniste. Tout d'abord en exerçant leur puissance économique dans le monde, sur le plan économique, avec la supériorité du dollar américain qui est consacré à la conférence de Bretton Woods, mais aussi par exemple avec le plan Marshall lancé par Truman. Cette supériorité économique leur permet de diffuser en fait leur vision libérale dans le monde et de combattre le communisme en tant que doctrine.
Et là, on peut aussi évoquer ce que vous disiez depuis le départ et à propos de cette photographie de Dorothy Lange, c'est-à-dire le soft power américain qui est représenté par le cinéma d'Hollywood, par tout un tas de visions qui sont des visions culturelles de la domination ou de la puissance en l'occurrence.
Exactement, on peut penser au cinéma, mais aussi aux comics, avec par exemple Captain America, qui servent donc de moyen de diffusion des valeurs états-uniennes et surtout de leur supériorité dans le monde.
Est-ce qu'on fait une place dans une partie comme celle-ci aux premières résistances à cette domination culturelle, par exemple, aux résistances parfois européennes, par exemple, à la domination de ces comics ou de ces films? Est-ce qu'on a le temps ou est-ce qu'on n'a pas le temps de mettre cela dans une copie? C'est trop précis.
Alors là, j'ai pas le temps, mais on pourrait penser par exemple aux accords Blum-Bynes, qui sont donc
un accord entre la France et les États-Unis.
Exactement, pour justement laisser plus de place à la culture américaine, enfin états-unienne en France.
En échange d'une aide économique.
Exactement, en échange de l'effacement d'une partie de la dette et d'un prêt considérable à la sortie de la guerre.
Donc ça, c'est la période Roosevelt pour la fin de la Seconde Guerre mondiale et Truman. On passe à une deuxième sous-partie à l'intérieur de cette partie.
Alors, avant Enfin, donc ça c'était la deuxième sous-partie. Il faudrait aussi montrer l'affirmation de la puissance états-unienne dans le monde par le hard power. Alors là, je vais très vite, mais en parlant du développement du complexe militaro-industriel, de la doctrine de l'endiguement, de l'intervention américaine par exemple lors du blocus de Berlin, ou même de la participation des États-Unis à la création de l'OTAN. Et c'est en troisième sous-partie que je parlerai de leur du fait que la place prépondérante des États-Unis dans le monde est contestée et fragilisée pendant la guerre froide, bah déjà contestée par l'existence même de ce bloc de l'Est sur tous les plans. Et s'il n'y a pas d'affrontement armé direct entre les deux puissances, la menace de l'utilisation de l'arme nucléaire fait régner l'équilibre de la terreur. À ce moment-là, les États-Unis sont aussi fragilisés par des crises qui sont nombreuses, à la fois diplomatiques et militaires, liées à la guerre froide. Les élèves les ont étudiés en classe de première, mais on peut penser à la crise de Cuba ou à la guerre du Vietnam, ou encore à la crise iranienne de 1979 qui est étudiée dans un autre chapitre.
Ça veut donc dire que mobiliser ses savoirs quand on est un élève de terminale au baccalauréat d'histoire, c'est faire référence à des savoirs qui sont acquis des années précédentes et que l'on réintègre dans sa copie au moment de la composition. C'est cela, Audrey Levray ?
Oui.
On peut.
On peut, en tout cas, c'est
tout
toujours
ce
une bonne idée. Exactement.
Tout ce qui enrichit la discussion.
Toutes les connaissances à propos sont les bienvenues. Et on pourrait donc montrer toutes ces crises qui fragilisent donc la puissance des États-Unis sur le plan économique aussi, par exemple avec les chocs pétroliers. Et en fait, pour remédier à ces crises, à cette fragilisation, il va falloir l'œuvre de plusieurs présidents. Et on peut penser à Ronald Reagan, dont le slogan de campagne était « Let's make America great again », sous-entendu aux yeux du monde.
Oui, et donc on a là aussi une possibilité de tisser de loin en loin, dans sa copie, ces slogans électoraux, le « America's first » que vous avez cité pour la première partie, ce « Let's make America great again », et on pourrait aller jusqu'à « America's first » de Donald Trump, en toute fin ou en conclusion.
Qui reprend
cette thématique de l'Amérique d'abord.
Et dans une dernière partie, il faudrait montrer que depuis 1991, et donc la disparition du rival soviétique, les États-Unis, dans leurs relations au monde, sont une hyperpuissance, puisqu'ils sont les seuls à détenir tous les leviers de la puissance, mais une hyperpuissance remise en cause. Alors, dans une première sous-partie, les États-Unis sont donc une superpuissance qui impose leur domination dans tous les domaines, sur le plan politique, au Conseil de sécurité de l'ONU, mais aussi sur le plan militaire, en agissant comme les gendarmes du monde, avec des interventions dans un cadre multilatéral, notamment par exemple lors de la première guerre du Golfe ou lors du processus de paix israélo-palestinien qui est aussi étudié dans un autre chapitre. Ils sont aussi une superpuissance économique, avec la diffusion de leur modèle à échelle mondiale. On pourrait parler de la doctrine de l'enlargement. Bref, les États-Unis sont une hyperpuissance. Mais une hyperpuissance fragilisée.
Et contestée.
Dès le tournant du 11 septembre 2001, qui ouvrirait sur une deuxième sous-partie. Ces attentats sur le sol états-unien sont une remise en cause violente de la toute-puissance américaine. Les États-Unis apparaissent vulnérables et leur priorité dans le monde deviendra alors de mener une politique interventionniste en réaction à la menace terroriste. En 2001, avec l'appui de la communauté internationale, avant un retour à l'unilatéralisme avec l'intervention donc en Irak en 2003 dans une guerre préventive qui est contestée par d'autres puissances dans le monde et nourrit une forme d'anti-américanisme. À ce moment-là, au début des années 2000, les États-Unis se retrouvent donc un peu en position isolée, fragilisée dans le monde.
Et donc, cette notion d'anti-américanisme peut-elle servir là aussi de toile de fond à un moment ou à un autre dans la copie, parce que cet anti-américanisme se recharge de façon différente au fur et à mesure de ce siècle sur les États-Unis et le monde. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut avoir des notations où on montre comment l'anti-américanisme des années 20 ou 30 n'est pas le même que celui des années 45-50 en Europe, par exemple, et il est encore différent de ces années d'après 1991, et donc il a une autre forme d'une certaine façon.
Alors d'une certaine manière, on peut le montrer, et un des conseils qu'on peut donner aux candidats, c'est de toujours nuancer leurs propos, notamment en faisant varier les visions de cet anti-américanisme voilà.
Sur un même thème, sur une même notion, pourrait-on dire, montrer que ça n'est pas la même chose pendant toute la durée de la période concernée.
Exactement. On peut faire pareil avec l'idée de menace. Réaction à une menace économique dans un premier temps, puis une menace qui pèse sur leur modèle, enfin une menace terroriste.
Je vous laisse continuer, Audrey Levray.
Donc une dernière sous-partie, après avoir montré que à partir du début des années 2000, la puissance des États-Unis est fragilisée, il faudrait finir dans un dernier paragraphe en redéfinissant de manière nuancée la puissance des États-Unis dans le monde entre des succès et des réussites incontestables, par exemple sur le plan économique, et des domaines où la puissance des États-Unis est un peu moins flagrante ou remise en cause. Donc sur le plan économique, on peut observer la réussite de la diffusion de leur idéal de libre-échange, par exemple avec l'OMC. Le plan militaire, lui, de la puissance est un peu plus contrasté, en demi-teinte. On constate depuis le début des années 2000 une hésitation entre interventionnisme, isolationnisme, unilatéralisme et multilatéralisme. Et les guerres récentes ont un peu désavouer les États-Unis dans leur rôle de gendarme du monde aux yeux de la communauté internationale.
Et donc ça c'est important de conclure la dernière partie la dernière sous-partie de cette partie sur cette question-là. Si on passe à la conclusion avec vous, Audrey Levray, qu'est-ce qu'il faut mettre dans cette conclusion et justement peut-être se rapprocher de l'actualité?
Alors oui, on peut finir ou dans cette dernière sous-partie ou en conclusion sur la manière dont l'émergence de nouvelles puissances conteste la place même des États-Unis en tant que première puissance mondiale. Pour bien conclure, il faut répondre à la problématique et donc parfois la réécrire pour préparer sa conclusion. En 1918, on peut dire que les États-Unis sont prêts à occuper une place de puissance mondiale grâce à leur économie florissante et leur victoire militaire. Mais la crise économique de l'entre-deux-guerres et le contexte politique les poussent à se tourner vers l'isolationnisme, à se replier sur eux-mêmes, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, qui marque le début de l'intervention des États-Unis dans le monde, où ils assument leur rôle de puissance face à l'URSS d'abord, puis ensuite en tant qu'hyperpuissance, mais une hyperpuissance peu à peu fragilisée, contestée et remise en cause par justement l'émergence de nouvelles puissances dans un monde désormais multipolaire.
Alors il y a des notions qu'on n'a pas abordées avec vous, Audrey Levray, qu'on pourrait peut-être ou pas, d'ailleurs je ne sais pas, aborder dans une copie comme celle-ci. D'abord, on est étonné, surpris de voir surgir depuis un certain temps le terme états-unien, là où ma génération disait américain. Est-ce qu'il faut utiliser ce terme états-unien, ce qui est une précision, pourrait-on dire, par rapport à ce terme global d'américain, tel que les géographes et les historiens ont mis en œuvre cette distinction, pourrait-on dire? Est-ce que c'est bien de mettre états-unien dans une copie, ou plutôt américain, ou est-ce que ça n'a aucune importance?
Je pense que c'est bien de mettre états-unien dans une copie, dans la mesure où américain fait plutôt référence au continent, un continent dans lequel les États-Unis sont un État, et ils ne sont pas du tout représentatifs de l'ensemble de ce continent, voire ils sont contestés par l'émergence de nouvelles puissances en Amérique du Sud.
Même si les Américains, les États-Unis se qualifient eux-mêmes d'Américains.
Exactement, mais justement avec cette idée de destinée manifeste.
Voilà, donc là on peut déjà savoir que mettre dans sa copie états-unien peut apporter quelques points auprès du correcteur. Une autre chose, la notion d'empire, Audrey Levray, qui est une notion très difficile à manier pour un lycéen de terminale ou une lycéenne de terminale, mais aussi pour des chercheurs, parce que ce sont des notions qui sont extrêmement discutées. Est-ce qu'on la fait entrer dans une copie comme celle-ci ou pas du tout?
Oui, on l'a fait entrer en évoquant notamment l'impérialisme, c'est-à-dire la volonté d'une puissance de s'imposer aux autres. C'est le cas par exemple des États-Unis avec l'Amérique latine. Et je pense qu'il est important justement de parler de cet impérialisme états-unien participe grandement, qui est majeur dans les motifs de contestation justement de cette puissance aujourd'hui.
Pour conclure avec vous, plus le lycéen ou la lycéenne mettra de notions qu'il maîtrise ou qu'elle maîtrise. Bien évidemment, faut pas les mettre comme ça au hasard. Plus il y aura de références, plus il y aura de dates, plus il y aura de noms, plus sa copie sera bien vue, d'une certaine façon, du correcteur ou pas.
Alors, la précision des exemples et des connaissances est évidemment primordiale. Mais ce qu'on va surtout chercher, c'est une copie qui montre que l'élève a compris le sujet et qu'il est capable, pour chaque idée, d'avoir un exemple précis qu'il maîtrise et surtout de les articuler entre eux. Et on va regarder s'il donne du sens à ce sujet.
Et si ce sens, c'est un sens qui est appris parce qu'il a suivi bien les cours de ses professeurs, dont vous, en l'occurrence Audrey Levray, si ce sens est différent, c'est-à-dire s'il a une autre interprétation, mais avec une argumentation, ça peut passer dans une copie ou pas?
Ben, je dirais que oui, l'essentiel est de faire un travail d'histoire, donc de présenter des faits, articuler les uns avec les autres de manière objective et nuancée. Voilà, il ne faut pas perdre ça de vue.
Merci beaucoup Audrey Levray d'avoir tenté
Merci.
Et réussi cette présence pour une correction ou un plan ça nous arrive aussi à la radio, vous savez, d'avoir des petits blancs vocaux. Merci en tous les cas d'être venu avec votre bonne humeur pour pouvoir défendre ce sujet, les États-Unis et le monde. Sachez que demain, eh bien, nous traiterons de la question de socialisme et syndicalisme en Allemagne, et qu'il y aura donc comme aujourd'hui un documentaire en ouverture qui sera conçu par Catherine Decopé et Thomas Duterte autour d'une photographie emblématique, c'est Willy Brandt se rendant à Varsovie, et que mercredi nous traiterons des mémoires de la guerre d'Algérie, même chose avec un petit documentaire autour d'une autre photo, à savoir Ici on noie les Algériens, photographie donc pour les mémoires de la guerre d'Algérie, mais photographie redécouverte tardivement, et on racontera l'histoire de cette photographie. You know I've seen a lot of people walking around with tombstones in their eyes. But the butcher don't care. Oh, if you live or if you die. God damn. The pusher. Et donc nous terminons donc cette émission en remerciant comme d'habitude Céline Leclerc et Marion Dupont qui l'ont préparée. Nasser Moussaoui était avec nous à la technique et Thomas Duterte à la réalisation. Vous pouvez écouter ou réécouter cette émission ainsi que toutes celles que nous avons enregistrées depuis maintenant pas mal d'années à la Fabrique de l'Histoire autour des programmes qui n'ont pas changé. D'ailleurs les programmes du baccalauréat, et d'ailleurs Audrey Levray, ça ne changera pas pour l'année prochaine.
Il reste encore une année
avec ces mêmes programmes.
Exactement.
Donc on peut accumuler son savoir en écoutant plusieurs émissions et également les autres émissions de France Culture sur ce thème.